Allongé en hauteur et tiré vers le haut. Qui dit hauteur, spirituellement, parle d'élévation, parle d'une notion spirituelle d'être élevé, d'être grand. Et cette dimension d'élévation et de grandeur dans la Bible répond à ce terme. Les caractéristiques du fruit de l'esprit qui s'attache à la hauteur, comme nous allons le voir plus tard, c'est deux dimensions. La dimension de la tempérance dans notre vie et la dimension de la paix. Alléluia. La dimension de la tempérance et la dimension de la paix dans notre vie. Qui dit tempérance dit maîtrise de soi, dit humilité, avoir le contrôle de soi, hein, pas des autres. Être dans un tempérament de conciliation. Qui dit tempérance parle vraiment de la notion d'humilité. Parce que pour savoir être tempérant dans la vie, dans toutes les situations, on te provoque à chaque fois, tu es dans une disposition d'esprit de conciliation. C'est la dimension où le Seigneur nous dit, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue. Il faut vraiment être humble pour vaincre dans ces situations, pour se maîtriser à ce point et être conciliant. Donc la dimension, la mesure de l'humilité est quelque chose de fondamental qui doit impacter notre hauteur, notre élévation. Nous allons le voir dans le détail. Et la notion de la paix. Qui dit paix en fait dit sérénité. Et quelqu'un qui est serein est plein de confiance. Confiance en Dieu, confiance en Christ, confiance en la parole de Dieu, confiance en sa capacité de tenir ferme. Il est plein de confiance. Et il est même plein d'assurance. Alléluia. Il est tranquille. Il est dans les dispositions. Dieu a dit, il va. Les réalités, pour lui, ne sont pas les vérités. Il s'appuie sur la vérité de Dieu et ne se met pas dans tous les états quand des réalités bizarres se mettent devant lui. Il est dans une dimension de quiétude. Amen. La parole de Dieu nous dit une chose. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Nous lisons plusieurs fois dans la Bible et dans les proverbes qui nous ont été donnés par le sage Salomon que celui qui s'élève par lui-même sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé par Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Philippiens, Paul, encore lui, nous exhorte à un esprit d'humilité. Si vous lisez tout le livre, vous allez voir que il parle là de vaine gloire. Il parle des gens assoiffés par le positionnement, par l'élévation. Mais un positionnement et une élévation par eux-mêmes. Et Paul les exhorte en disant, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne cherchez pas la gloire vous seul, vraiment, de vous-même. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si quelque part, tu arrives à regarder les autres comme étant au-dessus de toi, ça veut dire que tu vas déjà commencer à donner de la considération à l'autre. Et c'est une caractéristique, mes soeurs, profonde qui travaille à votre élévation par les. Dans le livre de Matthieu 18, 4, il est dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, la notion de grandeur, la notion d'élévation dans le royaume de Dieu n'est pas la même que dans le monde. Il faut que les enfants de Dieu, une fois pour toutes, le comprennent. Ce que le monde considère comme étant l'élévation, la grandeur, la position, etc. Dieu ne le considère pas. Dieu dit, celui qui est le plus grand dans le royaume des cieux doit agir comme le plus petit. Et celui qui gouverne dans le royaume des cieux, c'est lui qui doit servir. Notre Seigneur Jésus lui-même a été au service. Et le dernier jour, le jour du dernier repas, il a lavé les pieds de ses apôtres en leur expliquant la notion de positionnement, la notion de grandeur dans le royaume de Dieu. Il dit, ne suis-je pas votre maître? Et pourtant, je vous lave. Je vous invite à faire pareil. Parce que la notion d'élévation, amen. Quand nous lisons le livre de Luc 22, du verset 24 au verset 27, il se passe quelque chose. C'est une histoire qui se passe entre les apôtres. C'est vraiment l'image comme ça du monde. Entre les apôtres, à un moment donné, quand on a rassemblé les gens, il faut toujours qu'on sache qui est en tête, qui est en haut, qui est premier, qui est deuxième. Et la parole nous dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus? Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Voilà comment fonctionne le monde. C'est-à-dire, plus on vous cogne dessus, plus on vous maîtrise, on vous contrôle, plus on vous réduit comme ça à l'esclavage, plus on vous domine, et plus vous les appelez bienfaiteurs. Et Jésus donne une instruction à ses apôtres, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mes frères et sœurs. Jésus nous dit que ce ne soit pas notre façon de penser, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Amen. Si quelqu'un se dit, se sent ou voit que il est grand, il a la responsabilité, il est l'aîné, il est le plus instruit, il est le plus tout ce que vous voulez, à ce moment-là, sa responsabilité, c'est d'agir comme étant le plus petit de tous, donc se mettre à la disposition. Ça, c'est le royaume. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Si tu veux gouverner et tu veux bénéficier de l'onction de gouvernance, tu ne dois pas seulement gonfler les épaules et te mettre au-dessus de tout le monde, commencer à donner les ordres par ce par-là. Tu dois descendre toi-même, mettre les mains dans le cambouis et travailler plus que tout le monde. Voilà ce que Jésus nous dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère dans ce positionnement. Ça déclenche un processus d'élévation. Aux yeux de celui qui est plus petit que toi, quand tu te mets encore plus petit, à ses yeux même, il dit, si le patron se met même déjà comme ça, lui-même à travailler, moi je dois travailler encore de plus belle. Son regard sera un regard d'admiration. Et son positionnement, ce sera un positionnement vraiment de pouvoir au moins donner autant que toi. Parce que l'élévation divine n'a rien à voir avec les titres et le positionnement. Mais ça a à voir avec l'autorité de Dieu. Ça a à voir avec le rayonnement de Dieu. Ça a à voir avec l'influence et l'impact. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir le pouvoir d'une position, mais ne pas du tout avoir le respect des gens qu'ils gouvernent, qu'ils contrôlent, sur lesquels ils disent qu'ils règnent. Ne pas avoir leur, non seulement leur respect, mais même leur obéissance, tout simplement. Et du coup, à leurs yeux, il n'est pas grand. Il est peut-être à la position qu'il est, mais il n'est pas grand à leurs yeux. Mais quand Dieu dit qu'il élève, tout le monde doit. Et qu'est-ce que Jésus promet lorsque on fonctionne de cette façon? On continue au verset 27. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, alors? Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12. Amen, amen. La promesse qui est donnée ici, c'est de disposer le royaume en votre faveur. Lorsque l'on est humble, spirituellement humble, vraiment l'humilité de l'enfant, comme parle Jésus, lorsqu'on sait se faire petit, même dans un milieu où on sait qu'on est grand, lorsqu'on se met au service au milieu des personnes sur lesquelles on est censé avoir une autorité, Dieu élève et le royaume tout entier est en ta faveur. C'est une question, ça c'était l'humilité, nous allons un peu y revenir pour parler de l'élévation et de la grandeur et de cette notion là dans le... Il y a un deuxième aspect qui permet vraiment qu'on s'élève. C'est la façon dont nous gérons l'adversité. C'est la façon dont nous gérons les oppositions. C'est la façon dont nous gérons ce qui nous contrarie. Il y a une dimension tellement grande dans ça. Toutes les forces contraires. Même dans le monde, on dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort, pour dire que si tu as subi une épreuve et que tu en t'es sorti, bon, ça t'a grandi. Dans le royaume de Dieu, notre Seigneur Jésus nous dit quelque chose. Il nous dit comment aimer. On revient à l'amour. Il nous dit comment aimer. Comment aimer nos ennemis. Comment agir avec nos adversaires. Comment agir avec ceux qui nous maltraitent. Comment agir avec ceux qui nous maudissent. Dans Matthieu 5, il dit, avant on vous a dit des choses, mais moi, Jésus, je viens et je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il continue, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ah, c'est dur, mais c'est un secret. Parce que quand on lit tout ce texte dans Matthieu, l'Éternel nous pose une question. Il dit, quelle prouesse est-ce que tu as fait si tu aimes seulement ceux qui t'aiment? Si tu maudis aussi ceux qui te maudissent? Si tu maltraites ceux qui te maltraitent, quelle prouesse! Il n'y a aucune différence entre toi et lui. Donc, à mes yeux, vous savez, moi, je ne te distingue même pas. Pourquoi? Parce que tu es pareil que lui. L'Éternel attend ses enfants à un autre niveau. Jésus-Christ attend ses disciples à un autre niveau. Prouve-moi que tu es différent de lui. Parce que quand il dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, c'est qu'il y a une dimension de Yahweh, la note de Dieu. Lui, il est le Dieu de toute sa création. Il ne fait pas, il fait acception de personne. Il libère comme ça. Tout ce qu'il a libéré dans la création, il le libère pour tout le monde. Et tout le monde y a droit. Mais il y a des choses qu'il réserve à ceux qui font la différence dans les choses qui lui plaisent. Prouve que tu es différent. Prouve que tu es mon fils. Parce que ce que tu es en train de faire là maintenant, lui aussi il le fait. Même panier. Jésus dit, aime-le. Parce qu'en l'aimant, tu seras en train de faire quelque chose qui plaît au Père et qu'il ne peut pas faire lui. Donc tu vas marquer la différence qu'il y a entre toi et lui. Et Jésus dit, afin que vous soyez des fils. Oh, la position de fils là, c'est une grande position, mes soeurs, mes frères. Aspirons à ça. C'est dans la quête de l'allongement en hauteur que l'on parvient à être aimé. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est difficile comme ça. Mais si nous décidons, nous prenons la décision dans notre cœur d'obéir à cette instruction divine, nous le mettrons en prière. Et le Saint-Esprit, qui est là pour mettre les choses en œuvre pour Dieu, veillera à ce que nous parvenions à aimer. Il suffit de le décider, de le vouloir, de désirer cela. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'amour de Christ, avec la vie en Christ. Toute cette contrariété-là permet d'avoir vraiment des galons particuliers. Dans Luc 6, 35, il dit quelque chose. En parlant toujours de l'amour pour les ennemis et tout ça. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats. La seule chose qui va vous différencier des ingrats et des méchants et vous positionner à une position de fils, donc à une position élevée, c'est que vous les aimez. Eux, ils se déclarent vos ennemis et ne vous aiment pas, vous combattent, mais vous aimez-les. Pour pouvoir arriver à ça, il faut vraiment être dans la caractéristique de la tempérance, de la conciliation, de l'humilité importante. Sur le plan, même quand on veut analyser ça sur le plan, nous faisons le constat d'une chose. C'est que pour que des choses restent suspendues en l'air, il faut qu'il y ait des forces qui s'exercent sur eux. Deux forces contraires pour le tenir en équilibre en l'air. Il faut qu'il y ait une force qui le pousse et une force qui vient en face. Donc une force qui vient en face, au moins égal à la force qui le pousse, va le maintenir en l'air. Il ne tombera pas. Pour qu'un avion puisse décoller du sol, regardez la masse d'un avion, et planer dans les airs, et voler comme ça dans les airs. La technique ingénieuse, c'est que il a des moteurs, pas seulement pour le propulser. Les moteurs aussi sont, les moteurs et les ailes, c'est disposé de façon à aspirer l'air. Aspirer l'air en face, c'est-à-dire de créer une force, comme le vent, la force du vent qui vient en face. Ça rentre dans les moteurs, ça s'engouffre dans les moteurs, mais ça ne sort pas tout de suite. Ça circule à l'intérieur d'une façon ingénieuse, de façon à maintenir en équilibre cet avion. Et tout le long du vol, l'avion utilise ce vent-là pour s'élever et pour planer. S'il n'y avait que des moteurs pour propulser, il tomberait. Il ne planerait pas. Donc tout ce qui s'oppose à toi permet que tu prennes de la hauteur. Alléluia. La parole de Dieu dit aussi quelque part que il faut aimer vos ennemis, vous pareil, faire du bien à ceux qui te maltraitent. C'est ainsi que vous accumulez sur leur tête des charbons ardents. Vous accumulez sur leur tête des charbons ardents. Et votre récompense sera grande. Je lis ce verset et je dis, waouh. Les charbons ardents de Dieu. Parce que quand on lit les charbons ardents, on se dit, ah, charbons ardents, ça va les brûler, ça va les... Vous savez que le feu de Dieu, c'est un feu qui consume tout ce qui est mal, en fait. Le feu de Dieu, c'est un feu qui, quand il arrive quelque part, il détruit ce qui est, ce qui n'est pas conforme à Dieu. Il détruit ce qui est contraire au plan de Dieu. Donc, il rétablit l'endroit où le feu de Dieu agit. Il rétablit toute chose conforme à Dieu. Donc, ton amour que tu exerces pour tes ennemis ou pour ceux qui te maltraitent, cette attitude aimante, cette attitude d'amour que tu manifestes envers eux, c'est une façon d'appeler le feu de Dieu à l'action. Qui va détruire en lui tout ce qui le rend ennemi. Tout ce qui le rend mauvais. Ce charbon ardent-là, c'est pour l'amener à être un cœur disposé, bien disposé à recevoir la semence de Dieu. Et lui aussi, d'être transformé et devenir à Dieu. Donc c'est un acte d'évangélisation. Moi c'est ce que j'ai compris. Je dis les charbons ardents là. Donc même quand même ma chair veut faire quelque chose devant quelqu'un qui m'a fait du mal ou m'a, je m'étais dit Je sais ce que je vais lui dire. Je vais le condamner à l'amour de Dieu. Je vais le condamner à la visitation divine. Amen. Que toi qui me cherches du mal, tu seras visité par l'Esprit de Dieu. C'est une parole de bénédiction. Mais si dans ma chair, ça m'a semblé être même une parole dure comme ça, mais c'est une parole de bénédiction. Je le condamne à connaître le royaume de Dieu. Ah oh oui, quelle belle condamnation. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas hein, si ça correspond. Mais pour moi, c'est une bénédiction. Amen, amen. Plutôt que d'ouvrir la bouche et de le maudire, condamne-le à la visitation de Dieu. Condamne-le à l'attirance de Dieu sur lui. Beaucoup de gens disent le feu de Dieu, mais en fait dans leur esprit, ils pensent au feu de Dieu pour lui faire du mal. Non, le feu de Dieu vient lui faire du bien en fait. Parce que le feu de Dieu vient consumer ce qui est mal en lui. Amen, amen. La notion de la hauteur, ça confère une élévation, ça confère une distinction, ça confère une visibilité, une meilleure vision même de ce que l'on a à faire, un éclairage spirituel. Ça confère une influence, un impact. Ça confère une considération. Ça confère une autorité. La notion d'élévation avec Dieu s'encadre et s'entoure de tous ces éléments-là. Quand Dieu parle d'élévation, il parle de lumière. Dans Matthieu 5, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Amen. Donc être allongé en hauteur va permettre que notre chandelier soit mis en position haute afin que la lumière qui se dégage de nous impacte davantage de personnes. Et même un impact, que ça nous positionne à une position de visibilité pour que ce que tu as à faire pour l'Éternel, ce que tu as à faire dans la maison de Dieu, ce qu'il met dans ta bouche, ce qu'il met en toi pour pouvoir être vu, ait un réel impact et soit considéré par les personnes allant. Amen. Que notre chandelier soit vraiment déplacé et élevé. Vous savez, quelqu'un peut être au milieu de vous, il y a une grande foule. Cette personne-là est même en train de prêcher. Tant que toi, tes yeux ne le voient pas, s'il est perdu dans la foule-là, ça va paraître bizarre seulement pour toi. Mais si au milieu de vous, il y a quelqu'un qui mesure 2,10 m, tout le monde va le voir. Pourquoi? Parce qu'il a une tête au-dessus de tout le monde. Mais si quelqu'un aussi, même s'il est petit, trouve une échelle au milieu de la foule, grimpe sur l'échelle, on va commencer à le voir. Et tout le monde va s'intéresser à lui. C'est ce que Zachée a fait. Il a trouvé le sycomore, il est grimpé. Et ça n'a pas loupé. Jésus l'a vu. Amen. Les positions d'élévation avec Dieu, ça répond à ses critères. C'est une position que nous devons rechercher. Afin de ne pas faire un travail vain. Il faut que ce que le Seigneur a déposé en nous puisse être profitable. Même dans notre maison seulement. Que notre foi là commence à impacter vraiment nos enfants. Puis nos amis. Puis les groupes qu'on nous donne dans nos assemblées ou dans nos... Puis sur une chair. Amen, amen. Sinon, c'est une œuvre pour rien. Et personne ne désire œuvrer en vain. En parlant de chandelier, lorsque j'enseignais sur l'itinéraire de l'adorateur et qu'on parlait du tabernacle, je disais que lorsqu'on entre dans le lieu saint, on a dans le lieu saint une table des pains de proposition où le sacrificateur, nous en tant que sacrificateur royal, sommes d'abord devant le pain, la table de pain de proposition, c'est la parole de Dieu. Et dans la pénombre, il y a un chandelier avec une lumière qui est presque faible, Mais il est dit dans la parole de Dieu que l'huile qui devait permettre, qu'il faut de l'huile pour alimenter le chandelier, afin que la lumière soit beaucoup plus haute, afin que le chandelier soit beaucoup plus éclairé. Et que cette lumière permette au sacrificateur d'avoir une meilleure appréciation de l'environnement et de trouver le chemin de l'adoration de Dieu à l'autel des parfums. Amen. Vous pouvez suivre ce message sur le site l'itinéraire des adorateurs. Et il est précisé dans la parole de Dieu que l'huile qui doit alimenter le chandelier était une huile que le peuple, c'est le peuple qui devait apporter cette huile. Ça veut dire que chacun doit apporter l'huile pour alimenter son chandelier. L'huile qui venait des olives fraîches, concassées. Ça m'a fait penser à une chose. Nous sommes des oliviers verdoyants. Notre Seigneur Jésus dit qu'il reviendra et il mettra le pied sur le monde. Dans la symbolique des arbres et ce que chaque arbre signifie dans la Bible, l'olivier, c'est vraiment le racheté là, qui s'est engagé avec Christ, engagé à devenir une épouse. Amen. Celui-là ou cette personne-là qui attend le retour de Christ et qui attend l'enlèvement, c'est lui l'olivier verdoyant. Et quand il est verdoyant, ça veut dire qu'il porte du bon fruit. Et ce bon fruit-là en lui doit produire de l'huile. Donc l'olivier verdoyant est remarquable par sa beauté, la beauté de son fruit. Amen. Et nous sommes des oliviers verdoyants. C'est-à-dire, plus nous allons œuvrer, attendre vers cette épouse pure et sans tache, plus nous produirons de l'huile, de la bonne huile, pour alimenter notre chandelier. Et notre chandelier aura une belle flamme, une belle lumière, une lumière vive et une lumière qui ne s'éteint pas. À l'image des cinq vierges sages qui ont su attendre le retour du maître et qui ont pu partir avec lui pour la vie. Donc notre travail dans l'allongement en hauteur nous permet de façonner cet olivier verdoyant. Nous amène dans la capacité de produire une bonne huile pour notre chandelier. Et ce chandelier-là, l'Éternel notre Dieu nous dit, quand il a une belle lumière, quand la lumière est ravivée, elle ne peut pas rester sous la table. L'Éternel lui-même prend le chandelier et positionne ça en hauteur afin que ça éclaire toute la maison et que ça soit un profit à tout le monde. Que ce soit notre lot, nom puissant de Jésus. Que ce soit notre lot, mes soeurs, mes frères. Œuvrons. Œuvrons à allonger en hauteur. Soyons tempérants. Soyons humbles. Travaillons à notre humilité. Travaillons à aimer nos ennemis. Travaillons à être conciliants dans toutes les situations. Il y a de l'adversité. Apaisez toujours. Établissez un climat de paix. Établissez un climat de confiance. Alléluia. Ça élève. Ça permet à notre Seigneur de nous élever à une position de fils. Alléluia. Gloire soit donnée. Ô Dieu de gloire, merci pour la révélation de ta parole. Elle nous enrichit. Alléluia. Elle nous rend intelligents. Allongés en profondeur. Quand nous bâtissons notre tente, bien évidemment dans la hauteur, ça permet que nous dégageons un espace supérieur et que nous puissions jouir de larges espaces et nous déplacer aisément. Mais cette tente, tant qu'elle est là et qu'elle n'a pas un enracinement vers le bas, dans le sol, elle est fragile. Elle peut être emportée. Amen. Parce que la profondeur, d'abord, dénote une qualité de sol. La Bible nous interpelle de la façon de bâtir avec Dieu. Si tu bâtis sur du sable, dès la première arrivée d'eau, pouf, tout va partir. Même si tu bâtis dans la boue, dans la terre, c'est pas solide. Il nous invite à bâtir sur le roc. À bâtir sur le roc. Le roc est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sol dans lequel nous devons allonger en profondeur. Et dans la notion de profondeur, il faut pénétrer. Et ne pas être superficiel. Ne pas pénétrer seulement de 2 cm. Nous parlons de l'amour de Christ. Un amour qui n'est pas profond, qui est superficiel. C'est un amour qui est charnel. C'est une façon de faire qui est charnel. Qui s'attache au matériel. Qui s'attache aux choses juste physiques. Un profit immédiat. Une action qui agit, une action qui se fait rien que par intérêt. Qu'est-ce que je profite? Nous avons beaucoup ça dans nos langages. Dès qu'on te dit fais quelque chose, et puis quoi? C'est ça qu'on mange? Ça m'apporte quoi? Non! Il ne faut pas être comme ça. Ça fait penser à la semence qui est lancée sur un sol pierreux. C'est-à-dire, à ce niveau, il n'y a même pas Satan, parce que l'ennemi extérieur, là, c'est quand c'est jeté au bord de la route. Non. Lorsque c'est jeté sur un sol qui est pierreux, qui est dur, parce que c'est le sol pierreux qui empêche qu'on puisse aller en profondeur. Et quand c'est sur un sol pierreux, ce qui est semé ne prend pas racine. Et dès qu'il y a des premiers rayons de soleil, nous dit la Bible, c'est asséché. Ça meurt. Donc tout ce qui est superficiel, tout ce qui est charnel, tout ce que l'on est matériel, tout ce qui est guidé seulement par l'intérêt, n'est pas viable. Ça meurt. C'est pas périn. Ça n'amène nulle part. Amen. Il faut aussi éviter d'être moyen. Il faut éviter d'être simplement être moyen, faire les choses de façon moyenne, juste ce qu'il faut. C'est être émotif. C'est faire des choses dans l'âme. C'est être émotionnel, être sentimental. On qualifie ça par ce que l'on ressent. Ça m'a fait mal au cœur. Il m'a blessé. Il n'a pas souri. Il était fâché. Ces choses qui s'arrêtent à l'âme. Il ne s'est pas bien comporté avec moi. Il ne m'a pas rendu service. Ah! Ne laisse pas tes sentiments jouer au yo-yo avec ton rendez-vous divin. Quelles qu'en soient les causes. C'est trop dur, c'est trop ceci, tout ça. Je peux, je ne peux pas. Oh, je suis fatiguée. Tout cela, c'est lié à ton état d'âme. Ne laisse pas l'état de ton âme affecter ton rendez-vous divin, limiter ton rendez-vous divin. La parole de Dieu nous parle de la prospérité quelque part. Et il dit, je souhaite que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. En réalité, il était en train de vous dire que si vous ne traitez pas avec votre âme, votre prospérité sera à sa mesure. Si tu es trop émotif, ta prospérité sera... Parce que ça joue avec toi. La parole de Dieu, quand il parle des sols et des cœurs, il dit c'est la semence qui est jetée dans les ronces. C'est une semence jetée dans une terre remplie de ronces et d'épines. Les situations environnementales, les problématiques du monde viennent étouffer cette semence. Elle aussi finit par mourir. Elle essaye de pousser bien tant bien que même elle finit par mourir. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas périn. N'investis pas là-dedans. Ça limite ta destinée. Ne sois pas très émotif. Transcende ton âme. David disait, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Amen. Moi, je crois que c'est ce que nous devons dire tous les jours. Quand un sentiment commence à nous submerger, mon âme loue l'Éternel. Fais que ton esprit domine. Ne regarde pas les gens, ne regarde pas les circonstances. Sur le plan des sentiments, sur le plan de l'émotion. Essaye de transcender les choses et regarder les choses, ce qui se cache derrière. de se dire il y a du bon dans telle ou telle personne, il y a du bon en chacun de nous, et particulièrement il y a du bon en tous ceux qui confessent Christ, même si rien de visible là et de ressenti ne permet de dire qu'il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon. Alléluia. Il y a quelque chose de bon en tous ceux qui sont autour de vous. Il faut seulement que nous ayons allongé en largeur, en longueur, en hauteur pour voir ça. Amen. Il faut que nous ayons décidé d'aller profondément enfoncer nos pieux pour voir, pour laisser paraître ce qu'il y a de bon. Amen. Il faut être profond. Il faut chercher la profondeur de Dieu. Il faut aller comme ça, allonger jusque dans l'esprit. Amen. C'est dans l'esprit qu'il faut planter. Paul nous disait profondément enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Mais bien sûr, parce que nous avons fait le tour des fruits de l'esprit, nous les avons parcourus tous en longueur, en largeur, en hauteur. Figurez-vous que le seul qui reste parmi toutes les caractéristiques du fruit de l'esprit, le seul que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, mes frères et mes sœurs, c'est l'amour. C'est l'amour, parce que tout ça là en fait c'est l'amour de Christ. C'est l'amour, ce qu'on appelle l'agapé de Dieu. L'agapao de Dieu. L'amour, là, on dit que Dieu nous a tant aimés. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la profondeur. Agissons dans l'agapao de Dieu. Agissons dans l'amour, dans cette profondeur de l'amour là, en plantant profondément dans l'esprit. Dans Éphésiens, Paul nous disait, en comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, Dieu est amour. Il dit qu'il nous remplit de sa plénitude, qu'il nous remplisse de son amour. Amen, amen, amen. Comment est-ce qu'on peut planter dans l'esprit? Comment est-ce qu'on plante dans l'esprit? Comment est-ce qu'on allonge en profondeur jusque dans l'esprit? Alléluia. Premièrement, il faut chercher le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, on connaît ce verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, Dieu instruit. Si on veut le connaître, si on veut avoir sa plénitude, cherchez premièrement le royaume et la justice. Alléluia. Il s'agit de quoi? Quand on cherche quelque chose, on est comme un enquêteur. On est comme un fouineur. On réfléchit. On explore. On observe. On désire profondément comprendre. On est curieux. On désire savoir des choses. On questionne. Le Saint-Esprit notamment. On médite. On apprend. On met ses sens en éveil. On cherche la collaboration. Non seulement du Saint-Esprit, mais des frères et des sœurs. Pour partager la parole. Pour partager les connaissances. On invite le Saint-Esprit à venir nous enseigner. Pendant que tu étudies, pendant que tu écoutes un message, pendant que tu lis un livre, tu sollicites de sa part des révélations. Tu demandes l'intelligence. Tu demandes sa sagesse. Tu demandes le discernement. Il faut importuner le Saint-Esprit. Il faut aller le quêter. Tu dis, mon ami, ton pied, mon pied, viens. La parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de quelqu'un, il ne vit pas dedans. Appelle-le tous les jours. Viens occuper ton temple. Viens occuper ton temple. Alléluia. Chérir les commandements de Dieu. Chérir ses préceptes. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans son observance, dans l'obéissance et dans la mise en pratique. De vous aider à ça. Amen. Voilà comment on cherche le royaume de Dieu. Voilà comment on cherche la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est dans sa parole. La constitution du royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. Donc si on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est qu'on ignore les lois qui régissent le monde dans lequel tu es. Et il y a un dicton qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Si tu vis dans un pays, tu n'es pas censé ignorer la loi. Ça ne peut, tu ne peux pas dire, je ne savais pas. Tu n'es pas censé ne pas savoir. Nous sommes du royaume des cieux. Nous ne sommes pas censés ne pas savoir ce qu'il y a dans la parole de notre Dieu. Parce que c'est notre constitution. Amen. C'est pour ça que l'Éternel t'exhorte à chercher premièrement cela. Même si notre Père est bon, et il dit, il ne va pas tenir compte des temps d'ignorance. Mais les temps d'ignorance, là, si ça a cassé ton pied, c'est cassé. Hein. Il va dire, oui, prends, mais avançons. Amen. Deuxièmement, il faut désirer profondément vivre sa nature chrétienne. Il faut vraiment chérir son identité de citoyen du royaume, d'enfant de Dieu. Il faut comprendre ces choses. La nature de Christ doit être en nous. Cette nature qu'on vient de décortiquer là dans l'allongement. Dieu veut vraiment que nous soyons empreints de ça. Que nous désirons que ce soit notre nature. C'est l'amour de Christ qui est décrit dans ça. Alléluia. Il faut comprendre la notion de la nouvelle identité. Comprendre les fondements même du royaume de Dieu. La notion du baptême, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. La notion du royaume, la notion de la croix. Ces choses-là, ça a un impact sur ton positionnement en tant qu'enfant. Sur ton positionnement en tant qu'esprit. Nouvelle créature. Il faut chérir cela. Pour ça, il faut les comprendre. Amen. Troisièmement, et ce n'est pas le plus petit, il faut désirer connaître Dieu et le servir. Il faut désirer connaître Dieu. Pas le royaume ou la justice de Dieu. Connaître Dieu lui-même. Et c'est cette notion de devenir fils. Quand nous avons parlé tout à l'heure de hauteur, si Dieu nous élève, c'est pour que nous nous rapprochions. Nous avons vu que c'était la récompense dans l'amour de l'ennemi. Il nous élève pour que nous nous rapprochions de lui. Désirer sincèrement être fils. Un fils, c'est celui qui reconnaît le Père et qui désire être en filiation avec le Père. Se rapprocher du cœur du Père. Alléluia. Ne pas rester enfant ou ne pas être seulement un serviteur ou un héritier, vous savez. Sont des degrés différents. On peut servir Dieu ou bien être au service dans les assemblées de Dieu pendant des années sans connaître Dieu. Même jusqu'au ministre de Dieu. Parce que le positionnement de fils, c'est autre chose. Et ça, il faut désirer. Il faut désirer être un vrai disciple du Christ. Reconnaître le maître, imiter le maître, chercher à ressembler au maître. Avoir la nature du maître en soi. Alléluia. Il faut aussi, dans le cadre du sacerdoce, désirer être un partenaire du Père dans l'accomplissement de ses desseins. C'est-à-dire, il faut faire abstraction de soi-même, mourir à soi-même et exister pour les desseins de Dieu. Il faut désirer être vraiment en partenariat. Chercher, être en quête, comme nous disait notre Seigneur Jésus, de faire ce qui est agréable à l'État. Désirer profondément que son règne vienne. Et que sa volonté se fasse. C'est une autre. Ça n'a rien à voir avec le service que l'on peut faire. Ça a à voir avec ton intimité et ta collaboration avec Dieu le Père pour des missions spéciales, pour des actions spéciales. Parce qu'il y a des actions générales que notre Seigneur Jésus a libérées. Et pour accomplir même ces actions générales, il faut justement que les estimés de Dieu, parfois l'Éternel demande qu'ils montent à la brèche. Parce qu'au-delà des généralités, j'ai des choses spécifiques à faire par chacun. Et il a comme ça une tâche pour ceux qui désirent. Allez. Souvenez-vous du fil blanc. Souvenez-vous du fil de ceux qui veulent marcher derrière Christ. Quand on s'investit dans ces choses, on est en train d'allonger profondément. Jusque dans l'esprit son cordage. Alléluia. Gloire, gloire.